Drone, oiseau à la métallique robe, l'enfer des villes, à ton regard je me dérobe, mais tu es bien le plus vil.
Alors, nous allons vous lire un article qui est paru dans le journal La Montagne le 9 avril 2020.
Le titre: Les gendarmes du Puy-de-Dôme déploient un drone pour surveiller les chemins et les sites de pleine nature.
Non, 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 ce n'est pas de la science-fiction. L'aéronef miniature est destiné à repérer les promeneurs et autres vététistes qui ne respectent pas les mesures de confinement. Il a été utilisé pour la première fois ce mercredi 8 avril dans la chaîne des Puys par les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière, EDSR 63. Les chemins forment de fines bandes grises sur l'écran de la tablette de l'adjudant Ravel. À 80 mètres de hauteur, la caméra de son drone capte les moindres détails, même un nid de poule, une branche arrachée. S'il y a quelqu'un, on ne peut pas le louper, on peut même faire le tour d'un arbre, commande ce gendarme issu de la cellule d'identification criminelle et spécialisé dans le pilotage de cet aéronef minuscule. Appui aux gendarmes à moto. Tel est le but de ce survol aérien de la plaine qui s'étend au pied du puits de Pariou, au cœur du parc naturel des volcans d'Auvergne. Traquer les randonneurs, joggeurs et autres vététistes qui, à la faveur du beau temps, seraient tentés de violer les règles du confinement. Une fois l'un d'eux repéré, l'adjudant Ravel transmet sa position par téléphone à deux motards de l'escadron départemental de sécurité routière qui sillonnent le secteur au guidon de moto tout-terrain. Les deux militaires vont alors contrôler le promeneur qui, en principe, n'a rien à faire ici. L'avantage du drone, c'est qu'il est discret, nous dit le gendarme. Même si les gens pensent ne pas être suivis, ils le sont quand même. L'escadron de gendarmerie, qui effectue déjà des surveillances à moto tout-terrain depuis 3 semaines dans les sites de pleine nature, est la première unité du département à utiliser ce drone, habituellement employé pour des opérations judiciaires. Les chemins de la chaîne des Puys survolés ce mercredi étaient déserts et les motards n'ont pas eu à dresser de procès-verbaux. Mais les gendarmes, à quelques heures du week-end de Pâques qui s'annonce très ensoleillé, ne relâchent pas la pression sur les indisciplinés. D'autres contrôles appuyés par le drone sont prévus, de façon aléatoire, dans les jours qui viennent. Le peloton de gendarmerie du Mont-d'Or envisage aussi de l'employer ce week-end dans le Sancy. Après 3 semaines de confinement et le retour du beau temps, on constate un relâchement, souligne le commandant Debacker. On voit beaucoup de cyclistes, des jeunes à scooter ou des personnes sur des motocross. Les militaires comptent aussi renforcer leur présence sur les axes routiers, notamment sur les péages. En ce nouveau week-end de départ en vacances, censé ne pas en être un. La semaine prochaine, ils feront aussi appel à un hélicoptère. Moins discret qu'un drone, mais peut-être plus dissuasif. Et non, chers auditeurs et auditrices, ce n'est pas de la science-fiction. C'est vraiment un article qui vient du journal La Montagne. Et vraiment, vraiment, on risque de plus en plus de rencontrer des drones quand on se balade dans la forêt ou sur des petits chemins. Alors, il y a de ça 3 mois, qui aurait imaginé qu'on pouvait être traqué par un drone en faisant une petite balade sur un des chemins de nos bons monts d'Auvergne? Pas moi, en tout cas. Alors, le drone, il a été légitimé après le 11 septembre 2001. Pour la chasse à l'homme internationale qui a été lancée par George Bush dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et ce drone, enfin ces drones, en moins de 20 ans, ils sont devenus des outils de maintien de l'ordre incontournables. Nous allons voir, à travers un petit texte que va vous lire mon camarade, un petit texte trouvé sur le site Paris Lutte Info, comment les technologies telles les drones, dont on a tendance à croire qu'elles sont l'apanage des pays et des régimes qui sont estampillés dictatoriaux ou totalitaires. Donc, comment ces drones, qu'on pense sinon réservés à des zones dites de non-droit pour nous, c'est surtout non-droit pour les habitants et les habitantes de ces zones-là, en tout cas, comment ces drones sont devenus des outils du maintien de l'ordre et de coercition qui ont envahi nos vies entières, pas seulement nos montagnes, nos vies entières.
Oui, on peut signaler que dans les manifs, par exemple, à Paris, on a vu plusieurs fois, manif des Gilets jaunes, des drones nous survoler et nous surveiller.
Et il y en aura de plus en plus.
Sauf si on s'en occupe, et ça, je laisse place à votre imagination. Et maintenant, on va passer au petit texte. Orientalisme, drones et confinement. Il y a quelques semaines, on s'offusquait encore de l'usage de drones par les autorités chinoises pour faire respecter le confinement en surveillant la population. Dans la foulée, on apprenait que cette pratique était déjà mise en place en France, en banlieue. On retrouve là deux motifs typiques des technologies sécuritaires. Comme tout produit à introduire sur un marché, ici, le marché de la coercition, les nouveaux dispositifs de maintien de l'ordre passent par des phases plus ou moins longues d'expérimentation avant leur généralisation. Ces expérimentations, ce sont les territoires coloniaux qui en font les frais. Comme le rappelle le sociologue Mathieu Rigouste dans ses différents ouvrages, les cités sensibles, comme on a coutume de les appeler dans les médias dominants, afin de légitimer l'état d'exception policière permanent qui y règne, ont été le théâtre de la mise en place des polices de choc, la BAC, mais aussi des armements dits à létalité réduite, comme les flashballs et les LBD. Concernant la surveillance, des hélicoptères sont expérimentés dans les banlieues à partir des révoltes qui font suite à l'assassinat de Zyed et Bouna à l'automne 2005. Pour ce qui est plus précisément des drones, ceux-ci ont fait leur apparition en contexte de maintien de l'ordre en juillet 2006 avec le survol de la Seine-Saint-Denis par un avion de type Cessna équipé d'une caméra vidéo télécommandée. Un autre vol a eu lieu en décembre 2006 équipé d'une caméra thermique embarquée pour déceler d'éventuels débordements et les voitures brûlées à la Saint-Sylvestre. Antoine Di Zazzo, PDG de SMP Technologies, qui fournit déjà les forces de l'ordre françaises en Taser, expliquait en 2010 travailler au développement de drones armés capables de repérer les meneurs dans le cadre d'une émeute et de les neutraliser à l'aide d'une balle lancée par le X-Pistol, un petit canon qu'on a placé sous le drone. Le PDG précisait qu'on a fait des exercices de simulation à l'étranger. Ces drones, on les retrouve depuis régulièrement, que ce soit dans les cités, mais aussi dans les manifs, sur les territoires en lutte comme Bure ou Notre-Dame-des-Landes. Le 31 janvier, alors que l'épidémie du coronavirus battait son plein en Chine, dans la relative insouciance des nations occidentales, un tabloïd officiel du régime chinois publiait une vidéo montrant l'usage fait par les autorités locales de drones pour ordonner aux passants de rentrer chez eux ou de porter un masque. Cette vidéo de propagande du Parti communiste chinois fut largement relayée dans les médias et réseaux sociaux occidentaux, où elle a suscité de nombreux commentaires s'inquiétant des pratiques orwelliennes du régime chinois. La Chine est en effet devenue ces dernières années l'épouvantail idéal en matière de technologie de surveillance. Le journaliste Olivier Tesquet, auteur d'Alaras, Enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance, dresse ainsi un tableau inquiétant de la surveillance, en particulier dans la province du Xinjiang. Cette vaste région du nord-est de la Chine, à majorité musulmane, peut être considérée comme la zone géographique la plus surveillée de la planète. À Urumqi, la capitale, les caméras de surveillance équipées des dernières technologies de reconnaissance faciale sont omniprésentes, tout comme le contrôle des polices. Au checkpoint, les forces de l'ordre scannent les cartes d'identité des habitants et peuvent à tout moment réquisitionner leur téléphone pour en consulter le contenu. À l'entrée des supermarchés, des banques, les 13 millions de Ouïghours, ces sunnites turcophones traqués par le pouvoir central, peuvent être auscultés informatiquement lorsqu'ils achètent un couteau dans une droguerie. Leur état civil est gravé sur la lame sous la forme d'un code QR. Inscrit dans une base de données vertigineuse, les résidents sont classés en trois catégories: sûr, normal, dangereux. Leur ADN est méticuleusement collecté, leurs empreintes digitales consignées, l'empreinte de leur iris archivée, leur groupe sanguin inventorié, leur voix enregistrée. Si ces inquiétudes sont légitimes, on a du mal à ne pas y voir une sorte d'exotisme malsain, héritier du péril jaune et de l'image du despote oriental qu'ont pu incarner tour à tour les Ottomans, les Soviétiques, puis aujourd'hui la Chine, la Russie ou l'Arabie Saoudite. Et pour cause. Pour reprendre l'analogie d'Olivier Tesquet, cette technologie, tout comme le nuage de Tchernobyl, ne connaissent pas les frontières. Faut-il rappeler l'implication des forces de l'ordre françaises dans la formation de l'appareil sécuritaire chinois? 2 mois après la répression sanglante d'émeutes au Tibet au printemps 2008, la Chine avait reçu une délégation de la gendarmerie française pour former ses policiers en partance pour Haïti et le Soudan, avec un volet spécialement consacré au maintien de l'ordre. À la suite de cette présentation, elle se serait montrée vivement intéressée et aurait envisagé un développement en continu de la coopération franco-chinoise dans le domaine de la sécurité. Les expérimentations sociales de ces dispositifs et cette importation de l'usage des drones pour faire respecter l'état d'urgence sanitaire en est une nouvelle illustration. Finissent exorablement par s'imposer jusque dans les régimes dits libéraux ou démocratiques. Par exemple, la reconnaissance faciale est expérimentée dans des villes comme Valenciennes ou Toulouse, expérimentation épaulée par l'américain IBM et le chinois Huawei. L'exemple de cette rapide généralisation du drone pour surveiller massivement la population n'a donc rien de surprenant. Elle s'insère dans des échanges néocoloniaux qui sont monnaie courante dans le domaine sécuritaire. Elle est facilitée par un état d'urgence sanitaire qui permet de transgresser aisément les maigres barrières symboliques entre les États autoritaires et les démocraties libérales. Rappelons qu'il y a quelques mois, avant même l'état d'urgence sanitaire, Mounir Mahjoubi, qui était alors candidat à l'investiture La République en marche pour la mairie de Paris, proposait déjà d'équiper la police municipale parisienne de 240 drones de surveillance, une proposition défendue localement par le conseiller municipal dijonnais Laurent Bourguignat, LR. Thank you.
Sans aller jusqu'à dire que le pouvoir actuel veut nous assassiner, ne soyons pas complotistes ou imaginons que nous n'en sommes pas encore là, on peut à minima se demander s'il y a un pilote dans l'avion au vu de l'impréparation face à cette pandémie. Impréparation qui fait qu'en France, il n'y a pas de tests, pas de masques, pas de gel, pas assez de respirateurs et donc plus de morts qu'en Corée, plus de morts qu'en Allemagne, et que l'on se retrouve obligé à vivre confiné. Donc, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Mystère. Mais ça tombe bien, parce que dans un drone, il n'y a pas besoin de pilote. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le 12 avril, le ministère de l'Intérieur a passé une commande pour acquérir 651 drones divisés en 3 lots. Me demandez pas ce que c'est. Je sais pas, mais en tout cas, ça serait parti comme ça. 565 micro-drones du quotidien pour 1,8 million d'euros. 66 drones de capacité nationale pour 1,58 million d'euros. 20 nanodrones spécialisés pour 175 000 euros. À part ça, mais non, les soignants n'ont pas de blouse. Mais non, les soignants n'ont pas de masque. Mais non, on n'a pas de test. Bref.
Même si la crôleuse va, nous on est là.
Nous allons maintenant vous faire écouter un petit reportage qui donne vue du futur, de ce à quoi pourrait ressembler notre futur. Bah, que dis-je? Mais non! À quoi ressemble notre présent? Grâce donc à ce son qui nous vient de la bonne ville de Cosne-sur-Loire. Enfin, bonne ville, vous allez voir, pas tant que ça.
Les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter des distances d'au moins 1 mètre entre chaque personne. Respectez les mesures barrières.
Au-dessus du marché de Cosne-sur-Loire, le message se répète. Un drone muni d'une enceinte diffuse les consignes de prévention. Une présence bien acceptée par les clients ce matin.
C'est surtout d'entendre de ce qu'ils nous disent. Parce que si on nous rabâche pas les oreilles avec ça, il y a un moment donné, ça ne sera pas appliqué.
C'est très bien, oui. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne respectent pas les consignes.
Je trouve que les gens sont quand même relativement indisciplinés. Donc je trouve que les contrôles et le drone, c'est très très bien.
Aux commandes de l'engin des gendarmes, en période de confinement, le drone est un outil utile en complément des contrôles d'attestation.
Rassurez-vous, ce petit reportage n'est pas de nous. Il est signé gouvernement.fr. Alors, on espère que la signature gouvernement.fr explique le fait que les trois personnes interrogées trouvent ça si formidable d'être surveillées par un drone sur ce pauvre petit marché où, moi j'ai vu l'image, il y a 10 pelés et 3 tondus qui se battent en duel. On peut se dire quand même que c'est un peu bizarre d'entendre des adultes qui disent qu'ils ont besoin d'un drone pour surveiller s'ils respectent bien les gestes barrières et les distances de sécurité. Bah oui, hein, au cas où on oublierait. Non, on n'entend pas souvent les alertes. Alerte, alerte, coronavirus, vous toussez, vous avez de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Non, on risquerait d'oublier. Donc merci, grâce au drone, on peut s'en rappeler. On va bientôt finir cette petite émission spéciale drone, qui n'est pas très gaie, en remontant un peu en arrière. Parce qu'en fait, là, on parle beaucoup de drones de surveillance. Mais au départ, les drones ont été utilisés par l'armée américaine après le 11 septembre 2001 dans la chasse internationale au terrorisme pour tuer à distance sans risquer la vie des militaires. Donc on est passé à autre chose. Enfin non, on n'est pas passé à autre chose. Donc aujourd'hui, là, les drones qu'on a, ils servent à nous surveiller, à nous contrôler. Rien ne dit qu'un jour, ces drones-là, ils serviront pas aussi à nous tirer des balles de défense, voire des balles réelles. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit dans le petit texte tout à l'heure. Et ce n'est pas de la science-fiction. Vous voyez bien comment, il y a 3 mois, on n'aurait jamais cru en arriver là. Donc, on va faire un petit rappel historique avec un historien et philosophe qui s'appelle Grégoire Chamaillou, et qui, il y a 8 ans, a écrit un livre qui s'appelle « Théorie du drone », et qui donc revient sur ce changement de paradigme qui a été fait dans la façon de faire la guerre, à savoir qu'avant, bah, quand on faisait la guerre, il y avait un engagement physique de la part des attaquants, comme des gens qui se défendaient, chacun risquait sa vie. Maintenant, grâce au drone, on peut tuer des gens à 4000 km de distance, en faisant comme si on jouait sur un jeu vidéo. Au prétexte, enfin pas au prétexte, mais en mettant en plus en avant le fait que le drone permettrait de faire la guerre de façon safe, c'est-à-dire permettrait d'identifier une cible et de tuer cette cible sans faire de dégâts aux alentours, alors qu'en fait, un drone, quand ça atteint une cible, tout ce qui se trouve dans un rayon de 20 mètres autour de cette cible est tué. On va s'arrêter là, avec une petite note d'espoir, dans Le Parisien. Il y a 2 jours, un petit article qui disait « Le gendarme pilotant le drone s'est pris un projectile ». Et on vous laisse avec ça, et avec Grégoire Chamaillou.
Le drone, on peut donner plusieurs définitions. Une des définitions les plus simples, finalement, c'est une caméra volante de haute résolution équipée de missiles. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est de traiter de cet objet comme un ovni, au sens d'un objet violent non identifié. C'est-à-dire, c'est un livre de philosophie politique, mais ce qui intéresse la philosophie, en règle générale, ce sont des objets qui produisent des crises d'intelligibilité, qui font éclater les catégories de pensée traditionnelles qu'on cherche à leur appliquer. Et le drone, c'est un objet de ce type-là, et alors qui fait éclater du trouble dans toute une série de questions très classiques et très simples d'apparence. Par exemple, qu'est-ce qu'un lieu, ou plutôt, où est-ce qu'une action a lieu? L'action de tuer, par exemple. Lorsque cette action est écartelée entre des points aussi distants qu'une base militaire américaine au Nevada, et puis à l'autre bout d'un faisceau de télécommunication, le nord du Pakistan, où un missile tue. L'unité de lieu de l'action éclate. Et puis d'autres types de crises encore. Une crise dans les valeurs militaires traditionnelles, et spécialement dans cette branche des affaires militaires qui est l'aviation, enfin les pilotes de l'Air Force. C'était cette caste supérieure. En France, on avait les Chevaliers du Ciel, puis l'imagerie importée des États-Unis de Top Gun. La surprise, une des surprises en rédigeant ce livre, en menant l'enquête, c'était de découvrir que les premières contestations, radicales, hein, à fleur de peau du drone, elles ne venaient pas des pacifistes américains, mais d'abord des pilotes. Et on trouve, je retranscris dans le livre, une chanson d'un groupe de pilotes qui s'appelle Dos Gringos. Ils se définissent comme un groupe qui cherche à faire revivre le genre traditionnel du chant des pilotes et qui font un requiem du drone Predator. Vous voyez, une crise là dans l'éthos guerrier, dans l'éthos militaire. Un des objectifs de ce livre, c'est d'étudier ces crises à facettes multiples qui affectent l'ensemble des catégories liées aux affaires de la guerre à partir de cette nouvelle arme, le drone. Ce livre, il se clôt finalement sur une partie prospective, parce que le drone est encore un engin téléguidé, télécommandé. Mais dans les cartons, même plus que dans les cartons, dans les laboratoires de recherche militaire aujourd'hui, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la robotique létale autonome, c'est-à-dire des systèmes d'armes où il n'y a plus d'humain dans la boucle, ni même au-dessus de la boucle. L'homme, l'opérateur humain, est expulsé hors de la boucle, et la perspective cauchemardesque, mais qui n'est pas de la science-fiction, c'est des machines qui prennent elles-mêmes la décision de tuer, avec des discours qui d'ores et déjà sont mis en place pour accompagner ces développements, des discours éthiques qui nous expliquent que des machines, des robots, pourraient potentiellement être plus humains que les humains eux-mêmes. On a un discours très paradoxal, un discours post-humaniste qui prépare la venue de cette robotique létale autonome. Alors, j'essaye de faire plusieurs choses. D'abord, de réfuter par avance ces discours-là, parce qu'en réalité, ils servent à abaisser le coût réputationnel de ces armes. Et donc, il y a un combat sur le terrain philosophique, parce que les promoteurs à la fois des drones et de la robotique létale autonome ont besoin de justification. Et moi, je pense qu'il est, d'une certaine manière, du devoir d'une philosophie critique d'examiner ces arguments et de les réfuter. Et puis, j'essaye de faire autre chose. Si je m'intéresse à ces objets-là, c'est d'abord pour eux-mêmes, mais aussi, d'une certaine manière, de façon plus générale, parce que je crois qu'on peut saisir dans ces figures hyperboliques, exagérées, des traits que l'on retrouve dans d'autres secteurs de la vie sociale. De même que Foucault, lorsqu'on l'interrogeait sur pourquoi est-ce qu'il étudiait la prison, répondait bien sûr parce qu'il y a des luttes en prison, parce que c'est une question politique, parce qu'il faut penser la généalogie et l'arbitraire de ce système de pouvoir, mais aussi parce que là, dans ces objets qui, par bien des aspects, sont naïfs et grossiers dans la violence, parfois nue, crue, qu'ils mettent en œuvre, permettent de saisir des tendances, permettent de repérer ailleurs des processus similaires qui sont présents de manière plus diffuse. Et je crois que c'est le cas lorsqu'on étudie cette robotisation tendancielle des armes. Et je cite une phrase d'Adorno, une réflexion qui lui avait été suggérée par le spectacle des V1 et des V2, les fusées déjà sans pilote, à la fin de la Seconde Guerre mondiale que le régime nazi crépusculaire envoyait sur Londres. Et la réflexion d'Adorno, c'est « il en coûte, pour ainsi dire, toute l'énergie du sujet pour qu'il n'y ait plus de sujet. Il en coûte toute l'énergie du sujet pour qu'il n'y ait plus de sujet. » Et je crois que c'est une réflexion très forte et très belle, parce que l'idée n'est pas qu'il faudrait se hâter face à ce type de processus de crier une nouvelle fois à la mort du sujet, mais au contraire, d'essayer de comprendre et de saisir quels sont les processus subjectifs de désubjectivisation. Et je pense qu'une des activités principales des subjectivités politiques dominantes aujourd'hui, on peut les comprendre comme des activités qui consistent à s'escamoter, à brouiller les pistes, à effacer les traces. Et je crois que la question qui est devenue obsédante aujourd'hui, où est le sujet du pouvoir hein, sur fond de crise généralisée et de postmodernité, je crois que la phrase Adorno donne une bonne piste pour retrouver la trace de ce sujet en fuite. Où est le sujet du pouvoir? Il est partout où ce sujet s'affaire, s'active avec des moyens immenses et des investissements énormes pour s'effacer, justement. Et on pourrait, alors là, à un niveau très général, établir des parallèles entre les efforts, par exemple, de la finance pour brouiller les pistes, pour effacer les responsabilités, et ce qu'on trouve là, tendanciellement, en gestation dans la sphère des armes, parce qu'évidemment, des robots létaux, autonomes, une des questions majeures qui se pose, ce serait qu'il n'y aurait plus personne qui appuierait en apparence sur le bouton. On passe très schématiquement d'un mode de pouvoir qui procède par des ordres du commandement direct à un autre type de pouvoir, même si c'était déjà présent, mais si on schématise vraiment, un autre type de pouvoir dont la modalité principale est davantage le programme et la décision sur la décision, la spécification des paramètres d'un programme plutôt que des ordres directs. Si on n'arrive pas à construire non seulement une critique argumentative, mais aussi une critique en acte avec des mobilisations citoyennes, c'est malheureusement la perspective qui s'offre à nous. Marx parlait de la guerre développée antérieurement à la paix. C'est l'idée toute simple, hein, mais que les conflits armés sont des phases d'expérimentation, sont des laboratoires où les processus technologiques, les inventions peuvent s'accélérer, elles sont testées, et que ensuite elles peuvent revenir vers la sphère de la société civile après cette première élaboration militaire. Je crois que c'est un scénario probable. Enfin, ça commence par la guerre, comme toujours ensuite, très vite, c'est par l'étranger, par les frontières. Et on a déjà aujourd'hui des drones qui patrouillent à la frontière mexicaine aux États-Unis. Et l'étape suivante, ce sont les drones policiers. D'abord des drones d'observation et de surveillance. Très vite, parce que les projets sont là aussi, je les cite dans le livre, des drones policiers équipés d'armes non létales, du type flashball, taser. Bon, il y a un véritable danger. Et l'espoir possible, c'est que des opinions publiques occidentales qui, pour l'instant, ont failli à s'opposer à des guerres dronisées, à des campagnes d'abattage et d'assassinats ciblés, mais en réalité d'exécutions extrajudiciaires menées à l'autre bout du globe, qui ont échoué à faire ça, que peut-être, le jour où elles comprendront, ces opinions publiques, que ces armes leur sont à leur tour destinées, alors elles réagiront. Toute la dernière partie du livre, elle pose finalement la question des effets tendanciels de cette arme, non plus rapportée à la conduite de la guerre, c'est-à-dire aux affaires externes de l'État, mais rapportée à la question politique du rapport entre le souverain et ses sujets. Et bon, c'est un long développement, je ne vais pas le résumer ici, mais Je repars d'une thèse très, très célèbre de Kant. La question de Kant, elle concerne la décision guerrière. Son idée, c'est de dire, lorsque c'est le souverain, tout seul, de sa propre initiative, qui décide de la guerre, alors il y a un danger, qui est un danger politique. Et ce danger, il tient au fait que le souverain ne meurt jamais à la guerre, ni lui, ni ses proches, qu'il n'en paye pas le prix, qu'il n'en subit pas les coûts. Et alors, dans ce schéma-là, un schéma d'un autocrate, d'un despote, écrit Kant, on est dans une situation où le souverain peut décider de la guerre comme on décide d'une partie de plaisir ou d'une partie de chasse. C'est-à-dire que la guerre chasse, ou ce que j'appelle la guerre cinégétique, c'est non seulement un rapport à l'ennemi, mais ça caractérise aussi un certain rapport au mode de décision guerrier, un mode de décision dans lequel on n'est pas engagé. Et donc, parce qu'on n'y est pas engagé, on peut finalement décider de l'emploi de la force militaire à la légère. Et Kant oppose à ce schéma-là un autre mode de décision, ce qu'il appelle le mode de décision républicain. Il n'emploie pas le terme de démocratique, parce que ça désigne chez lui autre chose, mais à peu de choses près, c'est ce qu'on entendrait aujourd'hui par le modèle de la démocratie libérale, la démocratie électorale. Et son idée est qu'alors, si les citoyens sont ceux qui décident de partir à la guerre, il est probable, c'est un scénario très optimiste, hein, il est probable qu'ils décident avec prudence, avec circonspection. Parce que, on peut traduire ça dans un autre vocabulaire, le vocabulaire de la théorie de la décision rationnelle, ou du calcul économique, ce que une partie de la science politique américaine a fait en redécouvrant le texte de Kant dans les années 90, parce que alors, les citoyens électeurs internalisent les coûts probables de leurs décisions et la prédiction de ce modèle qu'on appelle le modèle du pacifisme démocratique, c'est que le recours à la violence armée tendanciellement dépérira, sauf en cas d'enjeu décisif, vital, crucial pour un peuple. Ça, c'est le schéma classique kantien. Mais dans ce schéma-là, il y a une hypothèse imprévue. Et cette hypothèse imprévue, c'est ce qu'on appelle la préservation par substitution. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si les citoyens électeurs peuvent confier la tâche de prendre les risques de la guerre à un tiers? Un scénario qui s'est déjà produit historiquement. Je cite les textes de Hobson, le grand pourfendeur britannique de l'impérialisme, et son diagnostic, c'était que lorsque, dans un régime de type parlementaire, on confie la tâche des opérations militaires à une main-d'œuvre militaire indigène, alors, il se passe quelque chose de dangereux pour la nation qui a recours à cette chair à canon, qui est finalement un retournement du schéma kantien, alors que le schéma optimiste prévoyait le pacifisme démocratique. Dès qu'il y a externalisation des coûts, ce même schéma déraille, devient autre chose, et c'est le militarisme démocratique. Ce qui peut être fait avec des forces indigènes peut l'être aussi avec des forces dronisées, avec ce qu'on appelle des forces militaires à haute intensité en capitale par opposition au travail militaire. Il peut l'être encore plus avec des forces robotisées. Et vous voyez, l'un des problèmes, on peut prendre la question sous des angles très différents, j'en donne simplement un ici, l'un des problèmes, c'est le biais qui est introduit dans les conditions de la décision guerrière. Et le danger qui se pose, c'est celui de la tentation de recourir à une arme low cost, à une arme qui promet, c'est une fausse promesse, mais qui promet la préservation absolue des nationaux. Le danger, il concerne l'absence de bornes dans le recours à la violence armée. Et c'est un des dangers politiques principaux qui est lié à la généralisation de cette arme.